Sur le COS 106.5.
Il est midi, soyez les bienvenus, présence midi en direct, soyez les bienvenus, vous qui nous écoutez dans toute notre belle région. J'ai le plaisir d'accueillir Androse Jankovic. Bonjour Androse.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour ce présence midi en direct avec une belle émission en perspective, puisque dans quelques minutes nous irons dans le Gers.
Tout à fait, je vous propose de présenter un événement, les grandes tablées. Ça se passera ce vendredi 22 mai devant la cathédrale d'Auch. Magnifique.
Après le diocèse d'Auch, direction le diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec Pierre-Fille Nestalas, ce projet de restauration
de l'orgue de l'église de Pierre-Fitte Nestalas. On va y aller même avant d'aller à Auch, si vous voulez bien, avec mes deux invités qui sont en studio, Paul Berretro et Léo Lalanne, tous les deux membres de l'association Orgue en l'Avedan, ils nous diront pourquoi c'est nécessaire de se mobiliser pour sauver, restaurer, réparer cet orgue. Ils nous diront tout cela.
Et juste avant, c'est l'agenda.
Ah bien oui, avec quelques nouvelles. Vous savez que c'est la Pentecôte dimanche prochain.
Exactement.
Alors, des nouvelles très spirituelles pour parler de l'Esprit Saint.
Voilà, et puis on parlera bien entendu du bulletin, hein, le bulletin diocésain qui vient de sortir.
Il est tout beau, tout chaud. Enfin, tout beau, je ne sais pas, vous allez me le dire, mais tout chaud, ça c'est sûr.
Et pour ce week-end de Pentecôte, je vous proposerai des balades en Pays de Lourdes avec plusieurs randonnées. C'est Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes qui sera avec nous pour nous faire 5 propositions de balades assez faciles pour ce week-end.
Le Béout, par exemple.
Entre autres. Voilà. Écoutez, voilà, ben, pas la peine de la passer, quoi, la chronique. Bien, pour le moment, c'est Sacha Boudet-Poplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour les titres qui seront développés à 12h30 dans le journal régional.
À Toulouse, la préparation de la prochaine conférence nationale du handicap s'organise avec plusieurs priorités définies localement autour de l'inclusion, du logement et de l'accès à l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Le retour des beaux jours marque aussi celui de la lutte contre le frelon asiatique. Dans plusieurs communes d'Occitanie, apiculteurs et collectivités se mobilisent pour tenter de limiter la prolifération de cette espèce invasive, particulièrement dangereuse pour les abeilles. Le centre-ville de Castelsarrasin poursuit sa modernisation avec l'installation de nouveaux mobiliers urbains destinés à rendre les espaces publics plus agréables et plus accessibles aux habitants. À Villefranche-de-Rouergue, une boutique de produits insolites vient d'ouvrir ses portes. Une nouvelle offre commerciale qui mise sur l'originalité pour attirer les visiteurs et dynamiser le cœur de ville. Le village d'Anner dans les Hautes-Pyrénées accueille une nouvelle édition de son festival de cinéma muet, un rendez-vous culturel singulier avec projection de films et accompagnements musicaux en direct. Et puis le Phoenix Toulouse Handball prendra bientôt la direction de l'Ariège pour un stage d'entraînement inédit. Le club toulousain veut profiter de ce séjour pour renforcer la cohésion de groupe avant la fin de sa saison.
Merci Sacha Baudet-Poupier, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve tout à l'heure à 12h30 pour développer ses titres dans le journal. À tout à l'heure.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
La suite de cette émission, c'est l'actualité des diocèses. Et aujourd'hui, on s'arrête dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Rebonjour, Androse Jankovic.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tous.
On débute cet agenda avec Vivre et Aimer.
Oui, Vivre et Aimer, le mouvement qui est impliqué dans la pastorale des couples et des familles et qui nous propose une soirée pour découvrir les clés de l'amour durable. Venez en couple découvrir donc ces clés de l'amour durable le jeudi 21 mai prochain. Donc, c'est cette semaine de 20h à 22h30 au centre paroissial Saint-Pierre, rue Barthaïrès. À Lourdes, l'objectif c'est de trouver des solutions ou de partager des petites astuces pour avancer toujours plus loin et toujours mieux dans notre vie de couple.
On reste à Lourdes avec cette soirée bioéthique qui est proposée par la paroisse.
Exactement, une soirée bioéthique est proposée par la paroisse du Pays de Lourdes en partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune, dérèglement bioéthique, les repères pour agir. Ce sera le jeudi 28 mai prochain à 20h30 au centre paroissial rue Bartayrès à Lourdes. Au programme, il y aura un documentaire inédit projeté, un documentaire d'environ 30 minutes qui sera suivi d'un temps d'échange et d'une conférence de Lucie Pacherie. Elle est responsable plaidoyer France de la Fondation Jérôme Lejeune, mais la soirée commencera un petit peu avant cela, puisqu'il y aura d'abord à 18h la messe à la paroisse, en l'église paroissiale de Lourdes, suivie d'un temps d'adoration et de prière pour la vie. Donc ce jeudi 28 mai, vous pouvez démarrer votre soirée bioéthique dès 18h par la prière et à 20h30 rejoindre tout le groupe pour cette soirée documentaire et réflexion. Là, il s'agira de cogiter en plus de la prière sur le dérèglement bioéthique. Donc.
On reste à Lourdes avec encore cette info qui nous vient du Centre Assomption de Lourdes avec ce café parents-grands-parents.
Effectivement, c'est un agenda un peu lourdé aujourd'hui. Ce café pour parents et grands-parents qui est proposé au Centre Assomption 21 avenue Antoine Béguer à Lourdes. Alors c'est une proposition qui est née il y a quelques mois et c'est un rendez-vous une fois par mois. Le prochain rendez-vous, c'est le 30 mai à 10h. C'est un temps d'échange, de partage entre parents et grands-parents. Comme son nom l'indique, l'objectif est de semer nos intentions et renforcer les liens entre nous. C'est animé par Angelica Castro Salas, coach thérapeute en parentalité, qui peut répondre aux questions. Mais l'objectif, c'est avant tout d'échanger, de se donner là encore des petites astuces et de s'encourager. Voilà, si on s'offrait une parenthèse pour réfléchir à notre rôle d'adulte, tout un programme, c'est ouvert à tous. Café des parents et grands-parents, le samedi 30 mai à 10h au Centre Assomption de Lourdes.
Voilà, après Lourdes, direction Tarbes, avec cette idée de sortie, un concert est proposé à Tarbes.
Oui, c'est une proposition de l'ensemble vocal Mezza Voce de Tarbes avec le chœur franco-allemand de Toulouse qui nous donne rendez-vous le 30 mai prochain à 20h30 en l'église Saint-Jean, c'est en plein centre-ville de Tarbes pour entendre le Messie de Handel. Voilà, c'est un concert qui promet d'être un moment de très grande qualité musicale et culturelle. Les billets sont à prendre auprès de l'Office de tourisme de Tarbes ou bien directement sur place le jour J, le 30 mai à 20h30. Le tarif est de 20€ pour les adultes, 10€ pour les enfants et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Voilà une belle sortie culturelle en perspective.
Belle sortie. On parle maintenant de la Pentecôte avec ce week-end les confirmations à la cathédrale de Tarbes.
Oui, puisque vous savez qu'après leur baptême, les néophytes reçoivent les deux autres sacrements d'initiation, l'Eucharistie, puis à Pentecôte, la confirmation. Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, les 32 adultes jeunes baptisés de Pâques recevront donc le sacrement de confirmation avec 50 autres adultes lors des vigiles de Pentecôte qui auront donc lieu en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes samedi soir à 20h30. Voilà de quoi rentrer pleinement dans cette fête de la Pentecôte. Et au sujet de ces confirmations, sachez que dans le bulletin diocésain qui vient de sortir, vous pouvez lire un extrait d'un sondage réalisé par l'Église de France auprès des catéchumènes et des néophytes. Un sondage tout à fait édifiant dans lequel il est question notamment de l'engagement paroissial des nouveaux baptisés, ces nouveaux baptisés qui prennent toute leur place dans la communauté paroissiale. Par exemple, il est expliqué que 40% d'entre eux participent aux célébrations, aux groupes de partage, aux fraternités, quand 42% d'entre eux s'engagent auprès de leur paroisse et au sein de mouvements pour proposer des activités pastorales, rendre service ou encore prendre soin des plus pauvres. Et bien pour faire tout ça, ils ont aussi besoin de l'Esprit Saint, ça tombe bien, il arrive.
Très bien. Du bulletin diocésain, on va en parler dans un instant, mais auparavant, un mot peut-être pour ce concert à Saint-Jean.
Et ce concert à Saint-Jean, oui. Comme je vous le disais, Gilles, comme je viens de vous le dire, qui a lieu donc le 30 mai prochain à 20h30, donc, et pour lequel vous pouvez prendre d'ores et déjà les places auprès de l'Office de tourisme de Tarbes. Vous n'avez pas bien écouté, Gilles.
Non, parce qu'en fait, j'ai le téléphone qui sonnait à côté, voilà, pour tout vous dire.
Alors, on peut dire aux auditeurs de ne pas téléphoner à Radio Présence à partir de midi jusqu'à 13h, nous sommes en direct.
Plus précisément, Isabelle, si elle nous écoute, de ne pas nous déranger qu'Anne-Rose parle à la radio. Ah là là. Bien, un mot peut-être du contenu de ce bulletin diocésain. Vous n'en avez pas parlé encore du décryptage sur le Liban.
Non, tout à fait. Dans ce bulletin diocésain numéro 77, vous pourrez découvrir une interview de l'un de nos séminaristes, Elias, séminariste du diocèse pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, mais originaire du Liban, qui nous propose un regard sur son pays, sur le Liban précisément. Et puis, dans ce bulletin, il est question de l'Angélus, vous savez, ce rendez-vous de prière que Monseigneur Mika, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, donne désormais chaque jour à midi à tous les chrétiens du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Bien sûr, l'agenda, nous parlons évidemment de notre bienheureux Pascal Vergès, comme dans chaque numéro depuis le mois de décembre. Et puis, vous pourrez aussi découvrir un beau projet, signe de joie et de vitalité, la Maison des Pères Aînés. C'est une maison, un lieu de résidence pour nos prêtres retirés, qui va être construite, rénovée plutôt dans le quartier de la Gespe à Tarbes. Nous parlons aussi de la communauté chrétienne de Galan, du Galanais, et de beaucoup d'autres choses. Il y a notamment un portrait magnifique de notre diacre Christophe Manceau qui est à découvrir. Et puis le reste... Je vous laisse découvrir. Gilles, il faut aller le trouver dans les paroisses, à la maison diocésaine, dans les communautés religieuses. Vous pouvez trouver ce numéro 77.
Numéro 77 du bulletin du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Voilà pour une partie de l'agenda. Si on souhaite communiquer dans cet agenda, c'est possible. On peut vous contacter ?
Vous pouvez me contacter. Voilà. Vous envoyez vos infos communication@catholique65.fr. Toutes les informations sont intégrées dans l'agenda du bulletin diocésain sur le site internet du diocèse et sur l'appli Au Clocher.
Merci beaucoup André Jankovic, je rappelle Isabelle et puis juste après on se retrouve.
Oui, d'accord.
La suite, justement, ce sera avec vous et vos invités.
Paul Berretro et Léo Lalanne, qui sont tous les deux chevilles ouvrières de l'association Orgue en Lavedan et qui vont nous motiver pour que nous puissions participer à la restauration de l'orgue de l'église de Pierrefitte Nestalas.
On en parle dans un instant, à tout de suite.
Cruel. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle. Et les filles sont belles, et les filles sont belles. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de s'attendre? Je voudrais partir maintenant, te retrouver, tu me manques tellement.
Bannière de Luchon, 94 FM.
Et si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. La suite de cette émission, c'est avec vous, André Jankovic, et vos invités en studio.
Tout à fait, Paul Berretro et Léo Lalanne. Bonjour à tous les deux.
Bonjour André.
Vous êtes tous les deux organistes et chevilles ouvrières de l'association Orgue en Lavedan. Vous pilotez l'opération Second Souffle, dont le but est de financer des travaux de restauration pour l'orgue de l'église Saint-Pierre à Pierrefitte-Nestalas. Alors Pierrefitte-Nestalas, c'est un petit village après Argelès-Gazost, avant d'emprunter les routes enlacées qui mènent soit à Luz-Saint-Sauveur, soit à Cotteret. Alors ça, c'est pour les repères géographiques. À présent, vous allez nous parler de cet orgue hein, qui se trouve donc dans une église qui est assez récente, puisque si je ne me trompe pas, cette église elle a été construite il y a un peu plus de 60 ans, donc on imagine que l'orgue y a été installé sûrement dans la foulée, vous allez nous le dire. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet orgue? Pourquoi cet instrument vous intéresse-t-il, Léo Lalanne?
Alors en effet, l'église date de 1959 et l'orgue de 1961. Puisque à Pierrefitte nous sommes riches comme à Colombey, nous avons deux églises et l'église a été construite donc à la fin des années 50 pour pallier à la population puisqu'il y avait une grosse usine de produits chimiques à Pierrefitte et qui embauchait jusqu'à 1500 personnes.
Donc un gros bassin de vie d'emploi.
Voilà un gros bassin d'emploi, donc forcément l'église, l'ancienne église était devenue trop petite, donc c'était l'abbé Méric, c'est le neveu de l'abbé Méric qui a fait construire l'église paroissiale.
Ah bah voilà, on a même l'arbre généalogique.
Voilà, qui a fait construire cette église, et en suivant l'orgue, l'abbé Méric à Pierrefitte a été fondateur de cette église, de l'orgue, il était aussi fondateur de l'harmonie municipale, donc il était musicien.
Donc c'était pas possible de ne pas avoir d'orgue.
Voilà, c'était pas possible d'avoir d'orgue dans cette église qui était neuve. Donc en 1961, il fait appel à un facteur d'orgue qui était venu d'Italie, qui s'était installé à Pau, qui s'appelait Antonio Pes. Donc maintenant, il y a ses enfants, puis maintenant son petit-fils, qui est toujours facteur d'orgue. Et donc, d'ailleurs, vous avez un orgue Pes à la basilique souterraine à Lourdes. Cet orgue Pes de l'église de Pierrefitte, c'est l'opus numéro 1. Donc, et moi, quand je suis arrivé, il y a un peu plus de 15 ans maintenant à Pierrefitte, je suis arrivé, l'orgue ne fonctionnait pas parce que, l'église avait pris la foudre et, en fait, la soufflerie n'était plus raccordée à l'électricité.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc, on a fait venir un électronicien qui m'a remis un disjoncteur moteur, raccordé l'électricité. Merveille, ça s'est allumé. Bon,
c'est comme ça que vous, Léo Lalanne, vous avez commencé à vous intéresser à cet orgue-là.
Oui, voilà. Moi, je suis originaire du Gers. Avant, je jouais il y a longtemps à la paroisse Saint-Jean à Tarbes avec Anton Stiller. Et quand je suis arrivé à Pierrefitte, cet orgue était muet. Donc, je l'ai remis en route. Nous avons monté une première association où on a financé un petit relevage avec l'aide de la paroisse pour le pouvoir qu'il soit utilisable. Et nous avons continué à l'entretenir en organisant des concerts.
Donc votre mobilisation, elle est pas nouvelle.
Non, c'est pas nouveau, voilà. Donc ça fait maintenant 14 ans que nous exerçons autour de cet orgue pour le faire rayonner et l'entretenir.
Alors on va revenir sur les travaux qui sont à faire, mais si l'église et l'orgue ont été construits et installés dans les années 60, ça veut dire que l'église et l'orgue sont propriété du diocèse ?
Du diocèse, exactement. Donc ni la municipalité ni l'État, avec la loi du Concordat, ne peuvent mettre la main à la poche pour financer la restauration de l'instrument. La mairie nous aide sur les animations culturelles, mais pas sur l'entretien du mobilier.
Donc vous êtes arrivé en 2012, vous voyez que l'orgue ne fonctionne pas, vous arrivez finalement très facilement à le remettre en marche, et vous créez de l'événementiel autour de cet orgue. D'ailleurs, vous y participez, vous, Paul Berretro, aussi en tant qu'organiste, à la fois à l'association et à ces événements culturels en temps normal. C'est cette vie culturelle qui permet de faire rayonner l'orgue.
Absolument. Alors j'y participe à mon petit niveau d'organiste, donc aux côtés.
C'est-à-dire,
je suis débutant depuis 10 ans, et voilà. Et c'est aussi ça qui est sympathique dans ce côté associatif, c'est qu'il y a de la place pour tous, et c'est une façon aussi de montrer que cet instrument qui peut paraître mystérieux pour certains, il est accessible et on peut s'y faire plaisir, quel que soit son niveau. Et donc notamment, maintenant tous les ans à Noël, on organise une animation musicale autour de cet orgue, et ce sont les membres de l'association, forts de leurs différents talents, vocaux, organistiques, et sur d'autres instruments, qui effectivement donnent une heure et demie de musique sympathique.
Mais il y a combien de personnes dans votre association ?
Nous sommes 41 adhérents.
Alors, ça veut dire quand même que c'est un sujet qui intéresse, qui préoccupe. Les gens se soucient de l'état des instruments comme un orgue dans une église. Ça intéresse les gens.
Oui, parce qu'en plus d'être un instrument qui participe à la culture et à la vie du village, c'est aussi un instrument qui participe à la vie du culte. Donc ça accompagne les mariages, les baptêmes, les sépultures, les messes le dimanche. Donc ça rythme aussi toute la vie du village. Et donc c'est quand même important que cet orgue soit entretenu et continue à vivre et à faire vivre la vie de la communauté et du village.
Alors aujourd'hui, vous vous mobilisez pour donner un second souffle à l'orgue, mais on entend bien qu'il souffle puisque vous faites plein de choses. Alors quel est son problème et de quoi a-t-il besoin, cet instrument ?
Alors,
dans quel état est-il ?
Tout est dans le titre. Second souffle, effectivement, cet instrument, comme l'a rappelé Léo, finalement, il n'est pas si capricieux que ça. Il a été remis en route relativement aisément. Et somme toute, il remplit correctement son office depuis l'origine.
Personne ne s'en plaint, si ce n'est les organistes, finalement.
Voilà, si ce n'est les organistes. Mais il y a des pannes. Finalement, cet instrument, il a 65 ans, ce qui est relativement jeune pour un orgue. Oui. Mais il y a quand même des soufflets, des pots qui se dessèchent, des soufflets qui se percent régulièrement, donc des fuites d'air, des notes muettes. Et un certain nombre de pannes récurrentes.
Et ça, c'est normal, pardon, je vous coupe. C'est habituel, c'est normal que ça arrive sur
ça
un instrument.
Ça fait partie du process de vieillissement contre lequel, justement, il y a des opérations, parfois d'ampleur à mener, qui vont au-delà des opérations courantes qu'on peut effectuer tous les ans, qui consistent à faire un accord d'une toute petite partie de l'instrument.
Vous pouvez faire en tant qu'organiste, ces étapes-là vous pouvez...
En accorder, non, juste la trompette, après le reste, ça demande quand même un certain...
Donc il faut une expertise et un savoir-faire particulier.
Voilà, et même pour ces opérations annuelles, on fait appel à un facteur d'orgue qui effectue cette opération. Et là, dans le cadre de Second Souffle, donc l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est de faire sur cet orgue des choses qui n'ont jamais été faites. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Cet orgue n'a jamais eu a priori d'accord général. Tous les ans, on fait un petit accord de quelques tuyaux, mais jamais tout, c'est beaucoup trop long. Donc un accord général, une harmonisation générale. On prévoit de remplacer tous les soufflets du récit, c'est le clavier du haut. Et voilà, ces opérations qui n'ont jamais été faites apparaissent aujourd'hui absolument nécessaires pour lui redonner ce second souffle et le faire chanter encore 20 ou 30 ans.
Donc c'est-à-dire qu'après ces opérations de restauration, il pourra résonner comme il résonnait au tout début ?
Mieux.
Mieux ? Ah,
c'est vrai. Il sera réharmonisé... dans une harmonisation qui est au goût du jour, puisque il avait été harmonisé à la base dans les années 60. C'était pas du tout la même mode, les timbres ne sonnaient pas pareil, enfin voilà. Mais il est quand même bien harmonisé parce qu'il remplit bien l'église, il n'y a pas de larcène, enfin il est vraiment il est bien proportionné et relativement bien harmonisé, mais on peut améliorer encore son harmonisation, voilà.
Alors il y en a, oui, pardon Paul.
Et deuxième précision, au-delà de ces opérations d'entretien jamais menées qu'on va réaliser, il va sonner encore mieux parce qu'on va lui rajouter deux jeux, c'est-à-dire deux ensembles de tuyaux qui vont enrichir sa palette sonore, et ça va être quelque chose sans aucun doute.
Ça, j'imagine. Combien ça coûte de faire ce genre de travaux ?
Alors, dans l'absolu, par rapport à ce qui se fait sur les orgues, c'est une opération relativement modeste, mais à notre échelle, c'est énorme. Ça coûte 30 000 euros.
Vous voulez dire à l'échelle de la paroisse ?
À l'échelle de la paroisse, à l'échelle de notre association. Ouais. Et donc, ça dépasse notre budget annuel, qui est de l'ordre de 4 ou 5 000 euros. Et donc, on a fait appel à un certain nombre de partenaires, et aux merveilles, qui ont répondu présents. Alors il y a notamment le diocèse, puisqu'on a rappelé que l'orgue était sa propriété, la paroisse du Pays d'Argelès qui va également nous soutenir, et puis ce qui est à souligner, c'est que la ville de Pierrefitte-Nestalas s'est également engagée à nous soutenir, comme elle le fait depuis longtemps, mais en particulier sur cette opération, au motif que, comme le disait Léo d'ailleurs, mais cet orgue, certes il a cette dimension cultuelle, mais également culturelle. et qui est très importante aux yeux de la ville de Pierrefitte. Et donc, on remercie tous ses partenaires aujourd'hui très chaleureusement là-dessus.
Et puis, les auditeurs qui le souhaitent peuvent aussi soutenir cette opération et vous aider à financer donc, ces 30 000 euros de restauration pour cet orgue, puisque vous avez lancé une opération de crowdfunding.
Exactement, pour tenter, et nous avons bon espoir, de rassembler la dernière partie du budget. Il manque encore 7 000 euros. Et cet appel à financement participatif sur crowdfunding vient d'être lancé, il y a 8 jours exactement. Il en reste 52 et nous sommes déjà à 11% de dons. Donc les espoirs sont tout à fait permis.
Vous êtes plutôt optimiste. Oui. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que votre association s'appelle Orgue en Lavedan. Là, vous mettez le paquet pour l'orgue de l'église de Pierrefitte-Nestalas. Il y a d'autres orgues dans le Lavedan. Si vous devez investir 30 000 euros pour plusieurs instruments, comment vous allez choisir? On met le paquet sur ce territoire plutôt que l'autre. Comment vous faites?
Alors, il y a d'autres instruments dans le Lavedan. Oui, en effet, il y a Argelès-Gazost. L'orgue appartient à la commune. Et malheureusement, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de volonté politique de la part de la commune de rénover l'orgue d'Argelès. Donc nous avions déjà, avec l'association, mis en place, nous avions mis un instrument électronique en place à la tribune, qui fait très bien le job. C'est un système Hauptwerk, c'est des enregistrements, des samples d'orgue réels qui sont dessus. Donc on a le cavalier col de Saint-Étienne-de-Caen, c'est assez bluffant quand on joue depuis en haut, donc voilà. Donc pour l'instant, l'orgue d'Argelès ne nécessite pas enfin, tant qu'il n'y a pas de volonté politique, ne nécessite pas
un investissement
de cet ordre-là. Ensuite, il y a dans le Haut-Lavedan, il y a aussi Saint-Savin. Mais Saint-Savin a son association, c'est Orgue Renaissance Saint-Savin. Donc nous n'empiétons pas sur leur plate-bande, entre guillemets. Non, ils ont,
donc
c'est une association
Saint-Savin, c'est
qui
bien le Lavedan, mais voilà. C'est quand même chacun son orgue.
Voilà. Non, et puis c'est un orgue qui est Renaissance, c'est un orgue qui est classé.
Ouais, c'est complètement
et puis
différent.
C'est une association qui existe depuis plus longtemps que nous et qui rayonne énormément aussi, avec qui nous travaillons en bonne intelligence. Mais voilà, donc essentiellement sur Pierrefitte, enfin dans le Lavedan, il n'y a que Pierrefitte où c'est vraiment où ça mobilise quand même des fonds autres que des fonds publics, puisque l'orgue appartient donc au diocèse.
Oui.
Et donc voilà.
Quand vous allez démarrer ces travaux, ça va durer combien de temps et est-ce que l'orgue sera utilisable le temps des travaux ou est-ce que vous allez devoir vous passer de l'orgue pour quelques semaines ou quelques mois?
Pour une bonne cause, on fera l'effort de se passer de l'orgue et ce sera nécessaire puisque les travaux devraient durer environ 2 mois. Ils seront faits d'un seul coup à l'automne prochain, commande est déjà passée. Et donc pendant cette période, l'orgue sera neutralisé, mais les activités de l'association perdurent, puisque nous disions tout à l'heure qu'il y avait 2 églises à Nestalas, et durant cette période, nous organiserons des concerts avec d'autres instruments, notamment de la harpe, à l'église de Nestalas. Voilà, la musique continuera à vibrer pendant cette période.
Voilà, et donc c'est intéressant aussi d'entendre que la mobilisation de votre association Orgue Lavedan ne s'arrête pas à cette mobilisation financière pour restaurer l'orgue de Pierrefitte, mais que au-delà vous avez quand même le souci de transmettre quelque chose, un message ou en tous les cas de sensibiliser à la musique et à la musique peut-être liturgique, je ne sais pas.
Alors, peut-être à la fois sensibiliser à la musique, mais ce qui est moins évident, je trouve, et c'est ce qui est éblouissant à chaque fois, c'est qu'on se rend compte que ces concerts réunissent dans une église des gens qui ont l'habitude d'y être, des paroissiens, et d'autres qui n'y viennent jamais. Mmh. Et ce rassemblement, pour moi, fait beaucoup sens et donne de l'intérêt à nos actions.
Ça veut dire que là, dans les semaines qui arrivent, là, pour l'été, vous avez déjà toute une programmation qui est établie, ou c'est peut-être trop tôt pour en parler?
On peut en parler.
Allez, on a 1 minute 30 pour en parler.
Alors, on a le 12 juillet, alors je ne sais plus l'heure, Paul.
Ce sera 18h, parce que tu ne voulais pas te coucher trop tard.
Ah voilà, c'est ça. Donc, il y aura un programme Orgue à quatre mains avec Anne-Cécile Dumoulin et moi-même. avec un programme avec des choses assez originales. Donc voilà, après des grands classiques avec du Bach et des choses du genre la danse macabre, Pomp and Circumstance d'Edgar, enfin des choses assez rigolotes, il y aura. Et donc voilà, donc le 12 juillet à 18h. Ensuite, nous aurons au mois d'août.
Le 7 août,
c'est Pierre Barthès qui est organiste à la cathédrale de Toulouse, qui viendra nous faire un concert, alors une partie de concert assez classique, des pièces d'orgue classiques, et une deuxième partie avec des transcriptions de musique de films de Star Wars. Voilà.
Ah, mais très original.
Voilà.
C'est bien aussi de voir qu'on sort aussi du cadre de la musique.
On est obligé pour essayer d'attirer et séduire le public pour qu'il n'y ait pas que les paroissiens qui viennent à nos concerts. Donc ça permet de démocratiser l'orgue. Voilà.
En tous les cas, on voit bien donc cette mobilisation de l'association Orgue en Avedon. On va marquer une pause, mais vous restez avec nous puisque Paul Berretro, vous avez aussi des informations à nous donner sur une initiative fort intéressante. C'est la création d'une commission agriculture dans la paroisse du Pays d'Argelès-Gazost. Vous nous dites ça dans quelques minutes.
Voilà, c'est juste après le journal régional, puisque sur les pendules de Radio Présence, il est 12h30 et c'est Sacha Baudet-Pouplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour le journal de la mi-journée, le journal de 12h30.
Bonjour à tous. À Toulouse, la Haute-Garonne prépare activement la prochaine conférence nationale du handicap prévue le 25 juin à Paris. Une concertation territoriale s'est tenue cette semaine sous l'autorité du préfet de région, Pierre-André Durand, afin de mettre en avant les priorités du territoire. Plusieurs acteurs institutionnels, associatifs et collectivités ont participé aux échanges. Parmi les principaux enjeux évoqués, améliorer l'accompagnement des personnes handicapées à chaque étape de leur vie, développer davantage le logement inclusif et faciliter l'accès à l'emploi grâce à une meilleure sensibilisation des employeurs au handicap. Avec le retour du printemps, la lutte contre le frelon asiatique reprend dans plusieurs départements d'Occitanie. Les apiculteurs, particulièrement touchés par la présence de cette espèce invasive, relancent les campagnes de piégeage des reines fondatrices avant la création des nids. L'objectif est de limiter la prolifération de ce prédateur redoutable pour les abeilles, mais aussi de réduire les risques pour la biodiversité. Les collectivités rappellent aux citoyens de rester vigilants et de signaler rapidement les nids repérés près des habitations. À Castelsarrasin, le centre-ville poursuit sa modernisation avec l'installation de nouveaux mobiliers urbains dans diverses rues de la commune. Bancs, espaces de repos et nouveaux équipements doivent permettre d'améliorer le confort des habitants tout en rendant les lieux plus accueillants pour les visiteurs. La municipalité veut poursuivre la revitalisation du cœur de ville et renforcer son attractivité commerciale. À Villefranche-de-Rouergue, une nouvelle boutique de produits insolites vient d'ouvrir ses portes. Les gérants proposent objets originaux, gadgets et idées cadeaux atypiques avec l'ambition d'apporter une offre différente dans le paysage commercial local. Une ouverture qui suscite déjà la curiosité des Villefranchois et qui participe à la redynamisation du centre-ville. Dans les Hautes-Pyrénées, le village d'Anner accueille une nouvelle édition de son festival de cinéma muet du 20 au 24 mai. Ce rendez-vous culturel unique attire chaque année des passionnés venus de toute la région. Pendant 5 jours, des films muets sont projetés avec un accompagnement musical en direct dans une ambiance qui replonge les spectateurs à l'époque des débuts du 7e art. Et puis en sport, le Phénix Toulouse Handball prendra bientôt la direction de l'Ariège pour un stage d'entraînement. Une première pour le club toulousain afin de renforcer la cohésion de groupe dans un environnement montagnard propice au travail physique et à la récupération. Joueurs et staff profiteront de ce séjour pour préparer au mieux la fin de la saison.
Merci à Sacha Boudet-Pouplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Voilà pour le journal régional. Retour de l'info sur notre antenne dans moins d'une demi-heure, dès 13h. Pour cela, eh bien, on sera avec la rédaction française de Radio Vatican à Rome pour toute l'actualité nationale et internationale.
Présence à Toulouse. 97.9.
Pour le moment, la suite de Présence Midi, c'est toujours avec vous, Anne-Rose Jankovic et vos invités.
Et je suis toujours en compagnie de Paul Berretro et Léo Lalanne, qui sont mobilisés pour offrir un second souffle à l'orgue de l'église de Pierrefitte Nestalas. Alors Paul Berretro, vous êtes resté notamment avec nous, bien sûr Léo Lalanne est toujours à vos côtés, mais vous êtes aussi membre de la commission art et culture de la paroisse du pays d'Argelès-Gazos. Cette commission, elle a pour objectif, hein, soyons clairs, de faciliter les organisations de concerts dans les églises en soignant la collaboration entre le propriétaire, souvent la mairie, et l'affectataire, donc la paroisse. Alors peut-être qu'en introduction, on peut peut-être rappeler qui peut organiser des concerts dans les églises et quelles sont les règles de base. Avant de parler de l'objectif et de la mission de cette commission, organiser un concert dans une église, ça se passe comment ?
Mais finalement, tout le monde peut organiser un concert dans une église. Il n'y a pas d'exclusion a priori. Par contre, il faut garder en tête en permanence que une église n'est pas une salle de spectacle ordinaire et qu'il faut être attentif à respecter la destination du lieu, c'est-à-dire c'est un lieu de prière avant tout, avec des règles à respecter.
Donc ça suppose quand même que les personnes qui viennent donner ce concert soient au moins sensibilisées à minima à ce qu'est une église, au mobilier liturgique, à ce qui s'y vit habituellement.
Et vous avez raison, et ça c'est pas forcément évident, et c'est un des rôles justement de cette commission d'accueillir ces demandes de manifestations culturelles et de pouvoir donner de suite à celui qui a l'intention d'organiser ça, lui donner quelques clés, quelques règles d'usage et de respect des lieux.
Donc, habituellement, elles arrivent où les demandes ? À la mairie, à l'église
Ça peut arriver à la fois à la mairie et à la fois à l'église, et justement cette commission a mis en place un process d'accueil avec un document qui est en cours de diffusion et qu'on trouvera dans toutes les églises et on le souhaite dans toutes les mairies. Et ce document donne la marche à suivre, très simplement. Vous souhaitez organiser une manifestation culturelle dans une de nos 44 églises de cette paroisse. Voilà comment faire. Vous envoyez votre projet à la commission Art et Culture. Il y a une adresse mail particulière. Et à ce moment-là, on précise les règles et la configuration
ça
souhaitée
veut dire
pour ce
que
concert.
Les membres de cette commission, peut-être que c'est intéressant que vous nous disiez aussi qui est dans cette commission, les membres de cette commission se laissent le droit de juger, de discerner si oui ou non ce concert peut avoir lieu dans telle église. Il est possible que la commission refuse un concert et sur quelle base ?
C'est effectivement le deuxième objectif de cette commission, après cette notion d'explication et d'accueil,
ouais.
C'est discerner et être en capacité de dire oui à 99% ou non par rapport à cette demande de manifestation. Et au passage, c'est la façon d'accompagner le curé du lieu dans cette charge, puisque cette charge, elle n'est pas neutre. Sur la paroisse du pays d'Argelès, il y a une centaine de concerts par an, et donc si le prêtre, si le curé doit lui-même examiner chacune de ces demandes et savoir ce qu'il faut répondre, c'est très compliqué.
Donc l'objectif, c'est de ne pas laisser le curé seul face à cette décision pour des événements qui ont lieu, on le rappelle, hein, dans des lieux dont la mairie est propriétaire, en plus.
À 90%. Et donc, effectivement, aider le curé et, comme vous le disiez, être amené, au vu du programme et de la demande qui est présentée, de dire oui ou de dire non dans des cas très exceptionnels parce que on pense que ça ne correspond pas au le type de musique ne va pas forcément plutôt variété ou ne va pas forcément coller au lieu.
Alors que c'est pas forcément un problème d'attitude des personnes qui viennent proposer le concert.
Non, et puis ces attitudes, en plus, on ne peut pas en préjuger avant que ait eu lieu le concert. Et donc ce qu'on peut justement, c'est par contre prévenir que certains lieux de l'église ont un caractère sacré, que l'autel n'est pas déplacé, qu'il faut respecter les embons, et puis il y a une certaine dignité et attitude à respecter. respectée au niveau de l'Église.
Cette commission, elle a vu le jour il y a un an, à l'aube de l'été 2025. C'était une demande du curé, des paroissiens, de la mairie, d'un petit peu tout le monde, ou c'était un besoin qui traînait depuis longtemps ?
Je crois que le besoin existait depuis longtemps, mais c'est le curé de l'époque, le père Dominique Aubian, qui lui avait pris les choses en main et qui avait bien ressenti ce besoin et la nécessité de passer à l'action et de s'entourer de 6 ou 7 laïcs pour réfléchir à ces sujets et mettre sur pied cette organisation.
Donc vous-même, Paul Berrettreau, vous êtes dans cette commission. Ça vous est arrivé depuis la création de cette commission de refuser un ou deux concerts? Et si oui, comment réagissent est-ce que c'est pas l'opportunité justement d'expliquer, de créer un dialogue, de faire un peu de pédagogie?
Absolument. Donc pour l'instant, moi, de mémoire, c'est arrivé 2 fois. C'est pas toujours évident d'être compris dans ces situations.
J'imagine.
Et on a certainement à travailler notre argumentaire, à travailler surtout l'explication amont. Mmh. Parce qu'effectivement, si les bonnes informations sont données en amont, ben, l'idéal, c'est que ce soit l'organisateur lui-même qui s'ajuste. Voilà, donc ça reste exceptionnel, vous voyez, de refus sur peut-être au total en 2 saisons 200 demandes, mais ça peut arriver.
Dans la commission, il y a aussi une personne qui représente la mairie, la municipalité ?
Alors non, parce que difficulté, c'est qu'il y a 44 églises réparties sur 29 communes. Et donc sur ces 29 communes...
Il n'y a pas un représentant des collectivités en général ?
Non. Mais ça pourrait se faire. Mais pour l'instant, voilà, c'est une initiative de la paroisse avec le prêtre qui est là, le curé. C'est le père Jean-Florent Nutens et sept laïcs à ses côtés.
Chaque concert fait l'objet d'une convention. Il y a quelque chose d'écrit. On rentre un peu dans les questions techniques, mais en fait, je pense que ce sont des sujets qui peuvent préoccuper beaucoup de paroisses, puisque là, on va rentrer dans une période estivale durant laquelle il y aura énormément de concerts. C'est quand même une question qui revient un petit peu tout le temps. Quelles sont les règles? Comment ça se passe? Il y a une sorte de contrat de partenariat.
Absolument. Alors, on a veillé à ne pas tomber dans de l'administratif excessif, mais effectivement, l'accord pour la manifestation se traduit au final par une petite convention de 3 pages sur laquelle à la fois le curé de la paroisse et à la fois le demandeur signent et s'engagent sur un certain nombre de règles. Mais en général, cet acte-là, il est purement théorique, administratif, puisque l'explication a eu lieu en amont.
Dernière question sur ce sujet, Paul Berrettreau, est-ce que ce serait pas finalement plus simple et peut-être moins lourd d'un point de vue relationnel que tout simplement eh bien des paroissiens puissent se mobiliser? Alors bien sûr, c'est toujours un engagement, mais pour être présent quand un concert, un groupe arrive, pour accueillir, pour expliquer, pour dire tel endroit dans l'église est important pour nous, tel endroit est sacré, est-ce que tout simplement il faut pas être présent et pour pouvoir dire les choses à l'instant T, quoi?
Vous avez 1000 fois raison. Je pense qu'il faut les deux. Il faut quelques informations écrites claires dès le début. Et puis le jour J, il faut être là pour accompagner, expliquer. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs, hein, parce que souvent les églises aussi, il faut les ouvrir, il faut les refermer après la manifestation. Il faut contrôler que tout est en ordre à la sortie. Et donc systématiquement, lors de ces concerts, il y a un paroissien, un sacristain de présent dans ces églises. Et c'est important.
Et bien voilà, c'est important de souligner l'engagement et la disponibilité de toutes ces personnes. Merci Paul Berrettreau pour ce focus sur la commission donc art et culture. C'est un modèle, hein, on peut dire, voilà, qui a vu le jour dans la paroisse du pays d'Argelès-Gazost depuis un an maintenant, et qui pourrait se déployer dans tout le diocèse de Tarbes-et-Lourdes et peut-être même au-delà. En tous les cas, partout où il y a une pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, on sent bien la nécessité de ce genre de commission. Merci à tous les deux, Léo Lalanne, Paul Berrettreau. Vous nous parliez aujourd'hui en première partie d'émission donc de Second Souffle, c'est l'opération que vous menez pour restaurer l'orgue de l'église de Pierrefitte Nestalas, et j'indique qu'on peut vous soutenir en se rendant sur le site Credo Funding. On cherche Second Souffle Orgue Pierrefitte et c'est très facile de vous aider. Merci à tous les deux.
Merci Anne-Rose.
Diane Rose, vous restez avec nous puisque la suite de cette émission bien direction le Gers dans un instant.
Nous allons parler des grandes tablées. C'est un événement qui se tient ce vendredi 22 mai à Auch, à la cathédrale Sainte-Marie à Auch. L'objectif de cette journée organisée, portée par le Secours catholique Pyrénées-Gascogne, c'est la fraternité et la lutte contre la pauvreté.
On en parle dans 3 minutes.
Radio Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas
Patrick Fury à l'instant avec Florent Pagny en duo à 12h45. On retrouve maintenant Rose Jankovic.
À Toulouse, 97.9.
Bonjour Emmanuel Bouissou.
Bonjour.
Vous êtes animateur permanent pour la délégation Pyrénées-Gascogne du Secours catholique ici dans le diocèse du Gers et vous allez aujourd'hui nous présenter un événement, Rejoignez les Grandes Tablées, un événement qui aura lieu le vendredi 22 mai à la cathédrale d'Auch de 10h à 16h. De quoi s'agit-il Emmanuel Bouissou ?
Alors, au niveau du Secours catholique, cette année, on fête nos 80 ans. Et au niveau national, on s'est décidé que c'était un moment qu'il fallait vraiment fêter et qu'on pouvait le faire autour de grandes tablées. L'idée, c'est de réunir les bénévoles, mais de réunir aussi des personnes accueillies, des partenaires, et de manger ensemble, puisque généralement, le fait de manger, ça facilite la convivialité, de manger ensemble dans un esprit de fraternité. C'est ce qui va se faire le vendredi 22 mai. Sur le Gers, on s'est dit que l'endroit où ça serait le plus représentatif, ça serait à la cathédrale d'Auch. Et donc, tout va se passer devant la cathédrale d'Auch.
Pourquoi le plus représentatif ? L'objectif, c'est d'être vu aussi, le fait que ce soit sur la place publique, si je puis dire, ça a du sens, c'est important pour cet événement ?
Oui, je pense que là, ça peut marquer les gens. La cathédrale d'Auch, l'endroit où elle est placée, c'est un endroit où il y a le marché aussi qui se fait, le samedi matin, et c'est l'endroit où passent le plus de gens. Quand on va dans le marché présenter l'équipe d'Auch, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour boire le café avec nous et discuter. Donc on s'est dit que c'était là que, si on le faisait là, les gens oseraient s'arrêter, le passant oserait s'arrêter et venir manger avec nous aussi.
Ah ouais, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, il ne faut pas un carton d'invitation.
Non, pas de carton d'invitation, c'est un repas partagé, donc il y a beaucoup de gens qui viendront avec des plats qu'ils auront préparés. Ouais. Généralement, par expérience, on sait qu'on a toujours plus à manger que ce qu'on mange, donc toutes les personnes qui auront envie pourront manger. Souvent, on voyait quand on le fait au marché, on a les SDF qui viennent. Ouais. Ils sont contents, ils s'assoient, ils discutent, ils mangent avec nous. Là, on pense qu'on reverra les SDF aussi, tant mieux. Et l'équipe d'Auch s'occupe beaucoup de migrants avec le collectif de migrants. Et tous les migrants seront au courant aussi. Donc, on aura tous ces personnes qui vont venir et en même temps les touristes qui passent parce que la cathédrale est beaucoup visitée de toute manière.
Alors, ça se passe donc les grandes tablées de 10h à midi, mais la journée c'est de 10h à 16h, donc on imagine que vous n'allez pas faire que manger et qu'il y a plein d'autres choses qui sont prévues, organisées. Qu'est-ce que vous avez prévu comme programme ?
Le matin, les personnes vont arriver. Donc là, c'est un accueil fraternel comme le fait souvent le Secours catholique. Un moment où on se pose, on boit le café, on discute. Après, pour ceux qui le souhaitent, il y a une cérémonie avec le Père Rodrigue à la cathédrale parce que j'ai beaucoup de bénévoles qui sont catholiques et qui ont envie de partager un moment de prière autour de nos valeurs. Donc de 11h à midi, on aura ce moment-là. De midi à 14h, on fait le repas festif. On a la chance, c'est que Carrefour, par exemple, nous a offert le dessert pour 100 personnes. Donc, on a déjà la gratuité grâce à des partenaires sur le repas. Après, on s'est dit, il y a des gens qui auront envie de s'amuser et d'autres peut-être qui auront envie de réfléchir. Pour s'amuser, on a les foyers ruraux qui nous ont prêté des grands jeux en bois. Les centres sociaux nous ont prêté tout le matériel de jonglage. Et les bénévoles, ils adorent faire des activités créatives, ce qui fait qu'il y aura 4 activités créatives qui seront proposées. Ça, c'est pour le côté convivial.
Donc, on peut venir en famille, avec des jeunes, avec des ados. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'occuper.
Voilà, vous pouvez venir et juste pour vous amuser, si le plaisir, c'est d'échanger, partager en toute fraternité. Pour ceux qui ont envie d'échanger, de discuter plus sérieusement, au sein de la cathédrale, il y aura un échange-débat entre les personnes autour de la pauvreté,
ouais,
qui sera un mix entre des vidéos de personnes en précarité qui parlent de la pauvreté, qu'elles disent ce que c'est que la pauvreté, pour avoir une idée de ce que disent les gens qui la vivent. Et aussi, on présentera le rapport du Secours catholique sur la pauvreté, qui fête ses 30 ans, lui, cette année.
Voilà, puisque le Secours catholique, chaque année, édite un rapport qui est un peu une expertise, hein, un état des lieux malheureux, mais un état des lieux quand même qui peut permettre de donner des orientations à tous les services ou tous les acteurs de la solidarité. Hein.
Par exemple, cette année, quand il est sorti, les députés sont venus nous voir, on a échangé avec eux sur ce qu'il y avait écrit dans ce rapport et on a beaucoup discuté sur le Gers. On va le spécifier sur la pauvreté dans le Gers, avec le monde rural que nous avons, avec le problème de la mobilité qui existe et on s'aperçoit, hélas, avec les autres associations, le problème de pouvoir même se nourrir qui peut exister.
Et ici, dans le Gers, alors que c'est un territoire rural et agricole, il y a cette difficulté à se nourrir.
Oui, toutes les associations caritatives essayent de faire le maximum qu'elles peuvent pour les colis alimentaires, etc. Ouais. Mais ce département est très large, donc pouvoir être présente dans tous les lieux, c'est pas si évident que ça. Ouais. Et plus vous partez vers le nord-ouest, par exemple, du Gers, qui est le plus agricole, moins c'est évident de trouver des bénévoles et de mettre en place des lieux de distribution alimentaire.
Donc cette journée-là, des grandes tablées, le vendredi 22 mai, c'est aussi l'occasion d'interpeller alors, sur ce qu'est la pauvreté, mais sur les besoins du Secours catholique pour pouvoir lutter contre cette pauvreté.
Alors j'espère que ce ne sera pas que les besoins du Secours catholique, mais que ce sera les besoins de toutes les associations caritatives. On a invité la Croix-Rouge, on a invité le Secours populaire, Resto du Cœur avec qui on travaille beaucoup, et qui eux aussi ont des besoins et n'arrêtent pas d'interpeller sur ce territoire.
Pour vous, la pauvreté, c'est quoi ? Ça résonne comment, la pauvreté, ici, dans le Gers ? Vous qui êtes animateur permanent au Secours catholique, vous en avez l'expérience ? Vous y êtes confronté tous les jours ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour les bénévoles, souvent ils me disent mais il faut donner. Et c'est pas nécessairement le plus important. Ça va venir, hein, le fait de donner. Mais ce qu'il faut, le fait d'être ouvert une fois par semaine, de proposer un accueil fraternel, de permettre à des gens de s'asseoir, de discuter, ça c'est déjà une première chose. Mmh. On s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui viennent et qui finalement, le seul moment où ils voient quelqu'un, c'est en venant prendre le café chez nous. Dans certains endroits, d'ailleurs, j'ai des bénévoles qui se déplacent aussi plutôt que les gens viennent parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Après, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est cette histoire par rapport à l'alimentaire. C'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont vraiment du mal à se nourrir maintenant, ce que je n'avais pas imaginé sur le département du Gers. Le troisième élément qu'on a vu, c'est qu'on a des gens qui travaillent, qui sont en CDI, ouais, qui ont des boulots précaires, qui ne gagnent pas beaucoup, et on les voit arriver, ils ont besoin de nous ou des autres associations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un salaire, mais un salaire pas assez suffisant pour pouvoir boucler la fin de mois, et qui viennent nous voir pour des factures d'énergie, EDF, essence, etc. Et l'autre élément qu'on voit arriver, c'est que dès que ces familles précaires, si jamais la voiture tombe en panne, c'est fini, ils peuvent perdre leur boulot. Ouais. Et donc on fait beaucoup, on aide beaucoup à des réparations de voitures, sur ce que je vous disais, la mobilité. Et développer le transport en commun, on y travaille, on le suggère aux communautés de communes, mais sur un département rural, c'est beaucoup plus compliqué que dans une zone urbaine.
En tous les cas, on entend que le Secours catholique travaille, mais ne travaille pas seul. Il y a ce lien avec des partenaires, les pouvoirs politiques. On entend aussi, à travers ce que vous dites, qu'il y a vraiment cette nécessité d'être coordonné avec plein d'autres acteurs de la solidarité. Et ça, c'est très important, on imagine.
Alors, en plus, on a une chance au niveau du département du Gers, c'est qu'on est en lien très étroit avec les maisons des solidarités, les assistantes sociales. Ouais. Ça veut dire généralement, quand quelqu'un vient nous voir et qu'on sent qu'il a besoin d'un accompagnement personnalisé, s'il n'a pas été voir l'assistante sociale, on le dirige en priorité vers l'assistante sociale du conseil départemental, qui, elle, en montant son dossier, monte son dossier en proposant à chaque association, si elle en sent le besoin, de pouvoir aider aussi. Ce qui fait que vous avez un accompagnement global de la personne. L'assistante sociale l'accompagne et nous interpelle, ou la Croix-Rouge ou le Secours catholique, sur tel sujet pour essayer d'améliorer l'accompagnement.
Ça, c'est quelque chose que le Secours catholique a su déployer, ce partenariat, cette capacité à travailler avec d'autres acteurs depuis au fil de ses 80 ans, puisque vous nous avez dit que le Secours catholique fêtait ses 80 ans cette année. Cette expertise-là, on imagine qu'elle s'est peaufinée au fil des décennies, justement.
Alors, au niveau du département du Gers, si ça a bien marché, c'est parce que le conseil départemental a eu la volonté de travailler en étroite collaboration avec toutes les associations. Et oui, le fait d'interpeller le Secours catholique, d'interpeller tous les ans les politiques, amène ce genre de prise de conscience et amène cette volonté de travailler ensemble.
Voilà. Pour en revenir à cet événement, donc du vendredi 22 mai à la cathédrale d'Auch, donc à partir de 10h le matin et puis tout au long de la journée, qu'est-ce que vous pourriez dire à des personnes qui hésitent à venir ou qui se disent c'est peut-être pas pour moi? Allez, quels arguments vous pourriez donner, Emmanuel Bouissou, pour que les auditeurs de Radio Présence sachent que cet événement-là les concerne?
Alors, quel argument? Si vous avez envie d'un moment convivial, d'un moment où vous vous sentez d'égal à égal avec les personnes, en toute fraternité, c'est un mot super important pour le Secours catholique, n'hésitez pas à venir. Franchement, on accueille tout le monde et c'est vraiment agréable de pouvoir échanger sans qu'il y ait d'histoire de jeu de pouvoir entre nous, juste de se parler comme entre frères. Voilà,
merci pour vos réponses. Et puis, on termine peut-être en disant que il y a des personnes qui sont mobilisées déjà, sans doute depuis plusieurs semaines, pour préparer cet événement. Vous avez une équipe avec vous. Peut-être un petit mot pour saluer aussi le travail des bénévoles et des personnes qui sont en charge de la logistique de cette journée du vendredi 22 mai.
Alors, pour la charge de la logistique du 22 mai, il y a une dizaine de bénévoles qui travaillent là-dessus, et merci à eux pour ça. Et sur tout le département, vous avez une centaine de bénévoles qui travaillent toutes les semaines pour le Secours catholique. Et merci, c'est vraiment grâce à eux que ça fonctionne. Je suis le seul salarié sur le Gers. Donc le Secours catholique, il est présent parce qu'il y a des bénévoles. Et ça, c'est le plus important.
Merci beaucoup, Emmanuel Bouissou. Je rappelle donc que vous êtes animateur permanent pour la délégation Pyrénées-Gascogne du Secours catholique. Vous œuvrez ici, dans le Gers, et vous nous présentiez aujourd'hui cet événement, les grandes tablées. Apporter un plat que vous souhaitez partager en toute fraternité avec vos couvert, bien sûr, le vendredi 22 mai prochain à la cathédrale d'Auch à partir de 10h et jusqu'à 16h. Un grand merci à vous.
Merci à vous et bonne journée.
Présence à Ax-les-Thermes 92.7.
Lourdes célèbre les 150 ans du couronnement de la statue de Notre-Dame de Lourdes. Couronner Marie, c'est affirmer qu'elle est reine, non pas de pouvoir, mais de tendresse et de protection. Tout au long du mois de mai, fleur après fleur, les pèlerins composent une immense couronne en hommage à la Vierge Marie. Vous aussi, participez à la couronne et faites déposer une fleur en votre nom sur lourdes-france.com.
Amis, nous allons vivre et vivre fort intensément, à ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être, sans oui, mais attends. À tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques des spires. Oh, mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésion, sans être abruti de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre toujours.
Radio Présence à Foix, 100.2.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Bien qu'en route vers la Chine, Vladimir Poutine entend bien faire comprendre aux Occidentaux que son